Bonjour à tous. Donc, merci à l'équipe de louanges pour les beaux chants qui glorifient Dieu. Merci pour le beau témoignage. On est rendu à notre troisième semaine sur la prière. Êtes-vous prêts à parler de la prière? Premièrement, avant qu'on commence avec un mot de prière, j'aimerais vous partager deux réflexions que j'ai par rapport à la prière. La première, en fait, c'est un peu comme on parlait tantôt avec les Amen. Vous n'avez pas devant vous un expert dans la prière. OK? Souvent, quand je regarde ma vie, je vois que c'est parfois difficile d'être constant dans la prière. Et je ne sais pas si vous vivez ça aussi, que parfois, à certains moments, on prie, mais c'est difficile d'être constant dans la prière. Et peut-être que vous sentez un peu comme je me sens parfois dans l'histoire qui suit, d'un homme qui était parti un matin, en toute hâte, puis il fallait qu'il se rende au travail. Et en fait, sa tank était, son réservoir était vide, presque vide. Il était, on voyait le « E », pour certains gars, « E » veut dire « encore de l'essence ». Et il s'est rendu en toute vitesse au travail. Bien sûr, il s'arrête sur le bord de l'autoroute, panne d'essence. Quelqu'un d'autre arrive, s'arrête sur le bord du chemin. Gloire à Dieu, cette personne-là avait de l'essence, lui donne de l'essence, l'autre personne repart. Un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les deux personnes se rencontrent encore. Première personne qui avait vu l'autre s'est dit, un peu curieux, comment ça qu'on le voit encore sur le bord de l'autoroute? Il me semble qu'il aurait dû aller à une station-service, j'ai donné juste un peu d'essence. Quand il s'est arrêté une deuxième fois, la personne lui a dit, j'étais tellement pressé que je me suis dit, je pouvais me rendre avec le peu d'essence que tu m'as donné. Et parfois, quand on regarde notre vie de prière, n'est-ce pas, ça reflète ça. Parfois, on se dit, je suis trop occupé pour prier. Quand on sait qu'on devrait dire, je suis trop occupé pour ne pas prier. Et c'est vraiment un des constats qu'on fait en notre vie, comment il est difficile parfois d'être constant dans notre vie de prière. Je vais vous lire un texte qui a été écrit par quelqu'un que... Et vous me direz après, passez dans votre cœur, si c'est des paroles qui reflètent ce que vous pensez, peut-être à travers certains moments de sécheresse, ou peut-être que même en ce moment même, vous vivez ça. « J'ai le cœur endurci. Je prie et pleure très peu pour l'Église de Dieu. » Brûlant plutôt dans l'intime désir de ma chair insoumise, je devrais être enflammé dans mon esprit. Je suis plutôt embrassé dans la chair par les convoitises, la paresse, l'oisivité, la somnolence. Dans les 8 derniers jours, je n'ai rien écrit, rien étudié, en partie par complaisance et aussi par malaise. Je ne sais pas si ces paroles font écho dans votre cœur, parfois dans les temps de sécheresse qu'on a où on se sent loin de Dieu. Et ces paroles ont été écrites, en fait, par Martin Luther, il y a plus de 500 ans. Un homme qui a été contre les abus de l'Église catholique, un homme qui a causé tout un réveil à travers le monde, même lui passé par des temps de sécheresse. Et je pense qu'on réalise à quel point qu'on a besoin de Dieu, mais il est parfois difficile d'être constant dans notre vie de prière. La Bible nous enseigne dans Proverbes 15:8, « La prière des hommes droits lui est agréable. » Ça montre notre dépendance envers Dieu. Dieu aime qu'on prie. On le sait, Dieu aime qu'on prie. D'ailleurs, Paul, à un moment donné, s'adresse aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, et leur dit que la seule exception de se donner l'un à l'autre en parlant des relations de couple, c'est quoi? C'est la prière. Donc, on sait que la Bible parle à quel point c'est important de passer du temps dans la prière. Dieu aime ça. Mais combien c'est difficile d'être constant. Deuxième réflexion. Et cette réflexion-là, je l'ai eue il y a quelques mois en novembre. On avait pris une semaine de vacances avec la famille. Puis quand je pars en vacances, j'essaie de prendre toujours un livre chrétien qui va me challenger, qui va peut-être me guider sur certaines choses. Et j'ai décidé de prendre le livre de Don Carson, « La prière renouvelée ». Donc, c'est sur la prière. Et j'ai réalisé lors de cette semaine-là, en lisant le livre, que souvent, peut-être 80% de nos prières, souvent, parlent de l'immédiat, n'est-ce pas? Notre santé, notre travail, les choses qu'on vit avec les enfants, etc., etc., les relations les uns avec les autres. On peut poser la question un peu comme Yannick avait parlé il y a deux semaines. Est-ce que nos prières sont différentes des gens autour de nous? Que n'importe qui dans le monde pourrait prier pour la prière, pour la santé, pour toutes ces choses. Est-ce que nos prières sont différentes? Et je ne suis pas en train de dire ici ce matin que ce n'est pas bien de prier pour la santé, pour ces choses-là. Je peux vous partager cette semaine... Lundi dernier, j'ai appris que ma belle-sœur avait le cancer qui a 30 ans. Et du jour au lendemain, elle était bien. Elle n'avait aucun facteur à risque par rapport au cancer. Du jour au lendemain, elle se ramasse à l'hôpital dimanche dernier. Lundi matin, il l'opère pour lui enlever la moitié de son côlon. OK? Il y a trois jeunes enfants, un qui a 6 mois, la femme de mon frère. Ça arrive tout d'un coup, juste comme ça. On ne sait pas encore comment elle va s'en sortir, mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on est dans la prière et on veut prier pour la santé des gens autour de nous, les gens qu'on aime. Mais aujourd'hui, ce matin, je vais parler d'une prière qui est un peu différente de cela. Ce que j'appelle une prière qui est radicale. Radicale pourquoi? Parce que c'est une prière qui est différente des prières que certains pourraient prier autour de nous qui ne connaissent pas Dieu. Une prière qui va transformer notre vie, une prière où on va être rempli de l'Esprit de Dieu. Si vous voulez que votre vie soit radicale, votre vie soit transformée, on va regarder ensemble aujourd'hui 3 choses. Une prière radicale commence avec une prière radicalement orientée vers les autres, radicalement intense et radicalement centrée vers les Écritures. On va commencer avec un mot de prière. Oui, Seigneur, on veut te glorifier. À toi soit la gloire, Seigneur, ce matin. Merci pour cette assemblée, merci pour le progrès qu'on voit dans plusieurs personnes, Seigneur. Et notre désir ce matin, c'est que tu touches chaque personne avec une conviction d'avoir le désir de te prier, de te glorifier. Seigneur, mets ta main sur moi, que je puisse parler d'une façon pratique ce matin pour communiquer à quel point c'est important de prier, Seigneur, et combien il est bon, combien nous en avons besoin, et qu'on puisse ensemble apprendre, en regardant tes Écritures, une prière de Paul, Seigneur, comment prier. Seigneur, mon désir ce matin, c'est que chaque personne ici à l'Église de Longueuil soit remplie de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière de digne de toi, Seigneur, et de t'être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance, fortifié à tout égard par ta puissance glorieuse, en sorte qu'on soit toujours et avec joie persévérant et patient. On te rend grâce, Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans ta lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de ton Fils, de ton amour. Amen. Les paroles que j'ai dites dans ma prière, en fait, c'est le texte qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Si vous pouvez tourner dans Colossiens 1, versets 9 à 14. On va voir une autre prière de Paul. On a vu une la semaine passée. On va voir une autre prière de Paul qui s'adresse aux Colossiens. Déjà, on va vous parler un peu du contexte qui résume déjà le premier point, une prière radicalement orientée vers les autres, en regardant le contexte de cette prière-là. Le premier point important dans le contexte de cette prière, c'est que Paul s'adresse à des gens qu'il ne connaît pas. Paul s'adresse ici aux Colossiens, une église qui a été fondée par Épaphras. Épaphras a rendu visite à Paul lorsque Paul était en prison. Il lui a rendu un peu un témoignage de l'amour qui animait les Colossiens, quel esprit les animait et le progrès qu'ils faisaient. Et Paul, au chapitre 1, Colossiens 1, verset 3, déjà commence à dire « Je ne cesse de rendre gloire pour ça, de prier pour ça, parce qu'il rend gloire pour des gens même qu'il n'a jamais rencontrés. » Et n'est-ce pas qu'il y a déjà une mise en pratique ici, déjà une mise en pratique dans notre vie de voir jusqu'à où est-ce qu'on va dans nos requêtes de prière pour les autres. Souvent, on prie pour soi-même, et d'ailleurs, c'est bien de prier pour soi-même. Les autres ne peuvent pas confesser nos péchés, on veut louer Dieu, on veut glorifier Dieu, et c'est bien. Dieu nous demande de glorifier, d'intercéder, de supplier, de louer Dieu, de l'adorer, mais jusqu'à où est-ce qu'on va par la suite? Est-ce qu'on prie pour notre famille, nos amis, notre Église, les gens autour de nous, nos dirigeants de l'Église, nos dirigeants de petits groupes? Si vous êtes dirigeant de petits groupes, est-ce que vous priez pour les gens dans votre groupe? Est-ce qu'on prie pour les gens au travail? Est-ce qu'on prie pour nos dirigeants politiques? Est-ce qu'on prie pour notre voisin, pour les gens autour de nous? Jusqu'à où est-ce qu'on va par rapport à notre prière pour les autres? Et le premier défi qu'on veut se lancer aujourd'hui, c'est d'étirer un peu plus notre liste de prières. Et dernièrement, il y a quelques mois, on a commencé, vous n'avez pas une bonne mémoire, un peu comme moi, ça vaut la peine de prendre un livre de prières. On a un livre de prières, Catherine et moi, qu'on a pour la maison. Et souvent, quand les gens viennent souper chez nous, quand on reçoit des requêtes, on demande aux gens, on va plus loin dans les relations, de dire « Pourquoi est-ce qu'on peut prier pour vous? » Et on le met dans le livre. Et on demande aux gens, si vous dites « Ouais, mais je ne sais pas pourquoi prier pour les autres », il y a un truc. On peut leur demander. Et d'ailleurs, ça vaut la peine après ça de faire un suivi un mois plus tard et dire « puis qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce que vous êtes rendu? Donc, c'est de lancer ce défi-là, de prier pour les autres. D'aller peut-être une étape plus loin, de prier pour des gens qui ne connaissent pas Christ. Dernièrement, j'ai un ancien collègue qui, d'ailleurs, est un expert en karaté. Puis j'ai pensé au livre, justement, de Tony Anthony. J'ai pris un livre, j'ai refilé, j'ai dit, garde, ce que tu vis présentement dans ta vie, ben il y a un gars qui est passé par là. Donc, lis ça, puis on s'en reparle, puis on aimerait ça témoigner. Ben je prie pour cette personne-là, et cette personne a déjà commencé à lire, et on veut voir ces effets-là dans la vie des gens autour de nous. On veut voir les gens venir à Christ. Est-ce qu'on a au moins une personne dans nos requêtes de prière pour lesquelles on prie, qui ne sont pas au Seigneur? Trouvez une personne. Déjà, pensez-y. Trouvez une personne qui n'est pas au Seigneur, que vous voulez prier pour eux. Est-ce qu'on prie pour les missionnaires, les gens qui sont à travers le monde, les Bascunianes qui sont au Chili? Il y avait une feuille dernièrement qui avait été distribuée pour parler un peu de nos missionnaires à travers le monde. Est-ce qu'on prie pour ces gens-là? Ce qu'on veut, au fond, c'est que notre amour augmente. Et déjà, on va faire des courtes prières après chaque requête. On va prendre un petit mot de prière. Oui, Seigneur, on veut te prier ce matin, pratiquement, que notre amour pour les autres puisse augmenter, Seigneur. On te prie qu'on puisse trouver des gens pour lesquels prier, que tu mettes dans notre cœur ce désir de prier pour les autres, d'étirer notre cercle, d'aller vers les autres et d'avoir un amour grandissant pour les gens autour de nous. Dans ton nom qu'on prie. Amen. N'est-ce pas que c'est intéressant que, comme chrétien, on peut prier pour des gens, on peut leur faire du bien sans moyens sophistiqués. Pas besoin d'armes, pas besoin de moyens, de technologie. On peut faire du bien des gens qui sont à l'autre bout du monde sans même les appeler. Savez-vous ça comme chrétien? Avec la prière, c'est une force, on veut l'utiliser. Deuxième principe par rapport au contexte, Paul prie pour des gens qui vont bien. On avait commencé à voir ça un peu la semaine passée avec Normand. On voit au verset 3, si vous regardez avec moi dans Colossiens 1, versets 3 et 4. « Nous rendons grâce à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints. » N'est-ce pas, quand on regarde notre vie de prière, ou même quand on prend des requêtes des gens, on voit quelqu'un qui a perdu son travail, « OK, on va prier pour ça. » Personne ne retrouve un travail, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va peut-être arrêter de prier pour eux. On dit, on passe au prochain. Lui a un besoin. Et on continue comme ça dans notre liste de prières. On scratch, on passe à un autre. En tout cas, c'est souvent ça qu'on fait dans notre vie. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'oser prier pour des gens qui vont bien. C'est ce que Paul fait ici. Il remercie Dieu des versets 1 à 8 pour ce que Dieu a fait dans la vie des Colossiens et rend gloire à Dieu. Puis ce qu'il veut, c'est que ses actions de grâce soient accompagnées de d'autres actions de grâce. Donc, de faire multiplier ses actions de grâce. Paul savait que quand ça va bien dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? On est souvent tenté à ce moment-là. Puis on devrait prier de rester loin de la tentation, de prier d'être persévérant, d'être patient, de garder notre joie. Puis on peut se poser la question, même par rapport à notre famille, les gens autour de nous, nos enfants par exemple, est-ce qu'on prie autant pour nos enfants quand ça va bien que quand ça va mal? Ils en ont besoin tout le temps. Prenez un temps quand vous êtes dans votre petit groupe. Je sais comment ça se passe souvent, les petits groupes, on dit, on va prendre les requêtes. Tout le monde devrait avoir des requêtes. Ça ne devrait pas être juste quand ça va mal. Tout le monde, on a des requêtes. On veut prier pour chacun de nous que ça aille bien, que ça aille mal. Et que dans ce passage-ci, du verset 1 à 8, Paul rend gloire à Dieu et pour les reconnaissants pour Dieu dans ce qu'il a fait dans la vie des Colossiens. On va voir la requête ensemble du verset 9 à 12. Du verset 12 à 14, il rend gloire à Jésus pour ce que lui a fait. Et 15 à 19, il donne une louange au Fils de Dieu. Donc, au fond, ce que je suis en train de dire ici, c'est que la requête du verset 9 à 12 est au milieu d'un passage qui est rempli de reconnaissance. Donc, déjà, on peut prier pour les gens autour de nous qu'on a à cœur, que Dieu augmente le désir de prier pour les autres. On va lire ensemble la requête, versets 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. veut avoir une prière radicale, une vie radicale, ça commence par une prière qui est radicalement orientée vers les autres. Deuxième élément, une prière qui est radicalement intense. On voit deux fois déjà dans le passage, au verset 9, au verset 3, Paul ne cesse de prier pour les autres. Et c'est intéressant ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà assisté à un match des Canadiens? Oui, qui ont, je suis sûr que plusieurs l'ont vu à la télévision. J'ai eu l'opportunité d'assister à un match des Canadiens il y a, je pense, à peu près 2 mois, où ils jouaient contre les Maple Leafs. Donc, il y a grande rivalité. Puis ce que je trouvais intéressant, je ne suis pas le plus grand fan, ma femme est un plus grand fan que moi, mais ce que je trouvais intéressant, c'était que quand je rentrais dans les places où on était, dans l'aréna, il y avait de la passion partout. Sur la glace, il y avait tellement de passion que même il y allait jusqu'à se battre. Il y en a qui dans les estrades, chantaient, criaient. Il y avait toutes sortes de passions. Les gens, quand ils sont sortis de l'aréna, étaient heureux. Même la journée suivante, les gens en parlaient au travail. On entendait parler tout le temps. Puis je me suis posé la question, qu'en est-il, nous, de notre passion par rapport à la prière, notre passion par rapport à Dieu? Imaginez si on avait la même passion que quand certains parlent des Canadiens, hein, n'est-ce pas, par rapport à la prière. Est-ce que Paul ici, c'est une prière qui est intense, une prière qui est radicalement centrée sur Dieu? Prier sans cesse ne veut pas dire ici dans le contexte toujours prier avec les mots, verbalement, vers Dieu. Mais ça veut dire que tout au long de notre journée, on soit centré sur Dieu. Je donne quelques exemples pour qu'on puisse comprendre un peu ce principe-là. Vous vous levez le matin, vous voyez un beau lever du soleil. Avant de se coucher, vous voyez un coucher du soleil. On peut dire, c'est beau. On peut aller jusqu'à dire une étape plus loin puis dire, merci Seigneur, c'est toi qui as créé ce beau lever, ce beau coucher du soleil. On peut avoir une belle journée avec notre famille, une belle journée au travail, on peut avoir du bon temps, puis on peut dire, hey, j'ai survécu, ça a été bon aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, « Merci Seigneur, j'ai vraiment passé une belle journée, c'est grâce à toi Seigneur, sois glorifié. » On peut passer par des temps peut-être de souffrance, peut-être une perte d'emploi, des moments plus difficiles. On voit que dernièrement, on passe par une récession. Il y a eu au Canada, dans le mois dernier, plus que 130 000 postes qui ont été supprimés. On voit que ce n'est pas fini au Canada. Et peut-être qu'on passe par des temps difficiles, mais qu'on puisse faire des prières à Dieu, que ça nous amène à la prière. Un peu comme Néhémie avait fait par rapport au roi. Quand le roi lui a dit « Qu'est-ce qui se passe? » Juste avant de répondre, il fait très courte prière, puis qui répond par la suite. Dans notre travail, quand quelqu'un nous insulte peut-être, ou quand quelqu'un nous lance un défi, ou notre boss nous demande une question difficile, un petit mot de prière. C'est d'être toujours, pendant notre journée, être centré, focusé sur Dieu. Et je peux vous dire que c'est pas toujours facile, hein. Quand j'ai commencé à travailler, il y a plusieurs années, au début, mes journées passaient tellement vite que j'avais l'impression que je commençais le matin puis je finissais ma journée de travail. Puis là, je me disais, oups, où est-ce que Dieu était aujourd'hui? Tu sais, j'avais l'impression que tout allait tellement vite, tout passait vite. Puis j'étais un peu frustré de ça. Puis à chaque jour, je me disais, OK, je vais y arriver aujourd'hui, je vais prier pendant la journée, etc. Puis j'avais de la misère avec ça. À un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite feuille. Puis ça disait tout simplement, je m'étais écrit en anglais, Think God, ou en français, Pense Dieu. Petite feuille, j'ai écrit à la main. Je l'avais mis à côté de mon ordinateur. Tout au long de ma journée, souvent quand ça allait moins bien, qu'est-ce qu'on fait? On regarde vers le bas. Puis je voyais cette feuille-là qui disait « Pense Dieu ». Puis ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, au début dans mon travail, à dire « J'ai besoin de Dieu tout au long de ma journée. » C'est pas juste le matin, c'est pas juste le soir, c'est pendant ma journée au travail. Prier sans cesse veut aussi dire prendre des moments précis. Par exemple, dans le psaume 119, verset 164, on voit « 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice ». Des temps précis dans notre journée. Et on peut se faire des rendez-vous dans notre journée avec Dieu. Je peux vous dire, moi je prends le pont Victoria tous les matins pour me rendre au travail, c'est complètement bloqué tous les matins. Presque tous les matins c'est bloqué. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pris le pont Victoria le matin, mais il y a toujours des gens j'espère que vous n'êtes pas un d'eux, qui à la dernière minute coupent, à la fin, juste avant de rentrer sur le pont. Et je peux vous dire, si je suis honnête, que ça me fâchait. Je me disais, ça n'a aucun bon sens. Il y en a qui attendent depuis 20 minutes. Puis, à travers les années, il y a plusieurs années de ça, je me suis commencé à dire, pourquoi prendre mon temps le matin quand je suis dans l'auto, de prendre un temps d'adoration, j'écoute des CD chrétiens, et de prière. Je prends du temps en prière, pris dans le trafic. Même que je peux vous dire que le temps que je prends dans le trafic le matin, pour moi, c'est un temps de bénédiction. C'est vraiment un temps de bénédiction parce que ça me permet de rencontrer Dieu à un certain moment de ma journée et on a du temps, là. Donc, j'encourage à trouver des temps comme ça pendant votre journée. Quelqu'un qui avait bien compris ça, c'était George Müller, qui avait fondé des orphelinats lors du 19e siècle. Et c'était quelqu'un qui avait toujours une joie dans la foi. Et il écrit un peu comment est-ce qu'il a fait pour garder cette joie-là. Eh bien, je vais lire un peu ce qu'il dit. La première chose que je devais rechercher, ce n'était pas comment je pouvais servir le Seigneur durant la journée ou comment je pouvais le glorifier, mais comment je pouvais remplir mon âme de joie, nourrir mon être intérieur. Car même si j'annonçais la vérité aux inconvertis affligés, si je me conduisais en citoyen des cieux et qu'en même temps, je ne sois pas heureux en Christ parce que je n'avais pas nourri mon être intérieur, il était impossible que mon activité procède d'un esprit joyeux et bien équilibré. Il prenait des rendez-vous à tous les matins avec Dieu. Si vous prenez rendez-vous avec un de vos bons amis, est-ce que vous allez y aller? J'espère pour vous, sinon... Si on prend un rendez-vous avec Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas se présenter? Faire un petit mot de prière ensemble. Oui, Seigneur, on veut te confesser ce matin qu'on n'est pas toujours fidèle. Fidèle dans nos rendez-vous, dans nos moments avec toi, Seigneur. On ne prie pas toujours sans cesse. Et ce matin, donne-nous ce désir-là, Seigneur, de prier sans cesse pendant notre journée, qu'on puisse prendre des rendez-vous, Seigneur, et donne-nous la force de pouvoir les respecter. Amen. Donc, on a vu qu'une prière radicale, c'est une prière qui est radicalement orientée vers les autres, radicalement intense. Le troisième principe d'une prière radicale, c'est une prière radicalement centrée sur les Écritures. Et on va regarder le verset 9 pour voir quelle était la requête de Paul. Paul prie ici qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul ici prie pour les Colossiens pour qu'ils soient quoi? Remplis. Et le mot qui est utilisé ici, c'est le mot grec pléro qui veut dire il n'y a pas de place pour rien d'autre. Et je pensais un peu à ça, puis je me disais, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au Subway où ils vous donnent un verre, c'est à vous de le remplir. Si vous êtes comme moi, il ne reste plus de place pour rien d'autre. On le remplit jusqu'au bord, on met le couvercle, ça déborde. Il ne reste plus de place pour rien d'autre. C'est complètement rempli. Et c'est ce que Paul prie ici. Il prie que, dans les Colossiens, soit rempli de la connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu, et qu'il n'y ait pas de place pour rien d'autre. Il prie que notre compréhension inadéquate de la volonté de Dieu soit remplacée avec la volonté de Dieu. Et les mots qui sont utilisés ici sont assez intenses. Le mot « connaissance », c'est une pleine connaissance, c'est le mot grec « épignosis », où on va d'une pleine connaissance qui va plus que juste accumuler des vérités intellectuelles. Dans une église comme Longueuil, on aime, n'est-ce pas, accumuler des vérités intellectuelles, n'est-ce pas? On aime ça, on entend des prédications, l'école du dimanche, on remplit notre cerveau d'intelligence spirituelle. Et ce que Paul prie ici, c'est d'aller plus loin. C'est de dire tout ce que vous savez, d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est de voir comment est-ce qu'on fait face aux situations avec lesquelles on vit dans notre vie en s'appuyant sur la parole de Dieu, en étant rempli de ce que Jésus ferait. Vous savez, on peut être rempli de toutes sortes de choses. On peut être rempli de jalousie, de rage, on peut être rempli d'inquiétude, d'anxiété. Paul ici prie qu'on soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Dans Actes 6, où on voit un exemple des disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit, l'effet était qu'ils ont commencé à annoncer l'Évangile partout autour d'eux. Si on est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, ça va avoir un effet concret dans notre vie. On va passer à l'action. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà porté les bracelets qui disaient WWJD. Oui? Porte peut-être encore, ce qu'il dit en anglais, « What would Jesus do? » ou en français, « Que ferait Jésus à ma place? » C'est un peu ça que Paul priait. C'est que son désir, c'est qu'on soit capable de comprendre, qu'on soit rempli de la connaissance de qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que Jésus veut qu'on fasse en s'appuyant sur les Écritures. Donnez un exemple concret. Vous êtes dans une situation au travail, vous êtes en conflit avec votre patron. Peut-être que ça arrive pas à personne ici, là, mais vous êtes en conflit peut-être avec votre patron ou avec un collègue. Oui, on peut commencer, puis c'est souvent ça notre prière au départ, en disant, Dieu, peut-être on prie même pour que l'autre change d'emploi ou que nous, on ait un autre emploi ou que quoi que ce soit. Mais ce que Paul prie ici, c'est que malgré le fait qu'on va peut-être prier pour ça, avez-vous remarqué des fois que ça n'arrive pas? On ne change pas d'emploi, Dieu nous laisse là. Avez-vous remarqué ça? Des fois, ça arrive. Dieu nous laisse là, Dieu nous fait vivre une certaine chose. Ça peut être la même chose avec la souffrance, on prie que la souffrance en ait. Dieu nous laisse là et on veut continuer à prier pour la souffrance des autres autour de nous. Mais Dieu nous laisse là. Si on est rempli de la connaissance, de la volonté de Dieu, nos prières se transforment. On commence à prier pour qu'on ait une bonne attitude à travers cette situation au travail, à travers cette souffrance, qu'on puisse glorifier Dieu à travers ce moment-là. Et je peux vous dire que j'ai appris ça d'une manière assez difficile dans mon travail, parce que ça m'est arrivé quand j'ai commencé mon travail, où je travaille présentement, que c'était difficile parfois avec mon patron. Puis mon premier réflexe était de dire, bon, je pourrais peut-être changer d'emploi, je pourrais peut-être aller ailleurs. Puis j'ai commencé à prier là-dessus. Puis je me suis dit, Dieu, c'est toi qui as permis que je change d'emploi. Puis là, tout d'un coup, je commence à avoir des moments difficiles. Bien, je veux te glorifier à travers ça. Montre-moi qu'est-ce que je peux apprendre. Et je peux vous dire que mon boss a contribué à ce que je sois plus patient, que je sois plus rempli de douceur. Et c'est quand même intéressant de voir comment que Dieu peut transformer nos prières, transformer notre cœur. Et je peux dire aujourd'hui que certains me demandent même des fois, en me disant, comment ça se fait que, il me semble, il était rough, comment ça se fait que tu ne réagis pas? Une occasion de témoigner. Puis je remercie Dieu pour ça. Puis notre prière, c'est qu'on soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, qu'on puisse passer à l'action. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on a besoin de prier pour ça. Maintenant, certains d'entre vous, on dit, on commence à prier. 30 secondes, une minute et demie, deux minutes, ouf, ça commence à être long. Comment est-ce qu'on fait pour prier plus longtemps? Prier mieux. Si on veut une prière radicale, on veut d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, on veut une prière qui est remplie des Écritures. Il y a un lien très proche entre prier et lire la Bible. Les deux, en fait, sont extrêmement reliés. On prie ici qu'on soit rempli de toute sagesse et intelligence. Sagesse, qui veut dire accumuler des vérités. Intelligence, c'est la capacité de les mettre en pratique. On veut être rempli de ça. Bien, comment faire ça? Se tourner à la parole, où on retrouve toutes les vérités, toutes les richesses de la volonté de Dieu. Dans Colossiens 2, 3, on voit en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Ce qu'on recherche, au fond, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, on cherche quelque chose qu'on peut mettre en pratique puis que ça se transforme en prière. On va donner quelques exemples. Je vais donner quelques exemples pour se comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. Premièrement, chaque fois que j'ouvre un passage dans la Bible, il y en a qui ont des bonnes mémoires puis qui peuvent se rappeler de tout ce qu'ils ont lu ou puis ils peuvent écrire deux, trois points, se rappeler de ce qu'ils ont lu. Moi, si je me rappelle déjà d'un point pendant ma journée, c'est déjà bien. Et je peux vous dire, c'est ce que j'essaie de m'accrocher. À chaque jour, j'ouvre la parole de Dieu, je me dis, Dieu, montre-moi une chose que je peux mettre en pratique aujourd'hui et que je veux me rappeler au courant de ma journée. Vous donnez quelques exemples ensemble. Vous lisez les psaumes. Vous voyez le cœur de David, le psalmiste. Et vous dites peut-être, je me sens parfois comme ça. Et David louait Dieu pour ce qu'il faisait, pour être son refuge, son bouclier. On veut lire ça et aller dans la prière par la suite et dire « Merci Seigneur, tu es mon refuge, tu es mon bouclier. » On peut peut-être lire des passages dans l'Ancien Testament ou vous lisez des passages, par exemple, Joseph qui livre ses frères. Joseph qui est livré par ses frères. Et en fait, ses frères, on dit ça puis on dit « Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? » Il me semble que, OK, ils n'étaient pas vraiment gentils, ses frères, OK. Puis je me suis posé la question d'ailleurs quand j'ai lu ça, c'est pour ça que j'en parle, je me suis dit, c'est vrai que des fois dans ma vie, je peux être jaloux. Je peux avoir certaines jalousies, peut-être pas exactement comme les frères de Joseph, mais je peux en avoir la jalousie, puis je veux confesser Dieu pour cette jalousie-là que je peux parfois avoir. Ce matin, pour ceux qui ont lu le passage dans Luc, verset 1, chapitre 1, où on voit la prière de Marie qui cherche à magnifier Dieu et le remercier pour sa fidélité, devrait nous porter vers Dieu. On lit ça, puis on tourne vers Dieu dans un esprit de prière. On dit, merci Seigneur, parce que tu es fidèle dans ma vie. On passe par des temps difficiles, peut-être dans notre travail, dans notre santé. On lit 1 Timothée 4, verset 8, où on voit que ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Pas facile, ça. On tourne vers Dieu puis on prie, Seigneur, je veux avoir cette paix dans mon cœur. Je veux, Seigneur, que tu enlèves mon anxiété, car en toi, je peux retrouver cette paix profonde. Je cherche ça, Seigneur. Comme ça dit là, comme ça dit dans le psaume 23, tu me diriges près des eaux paisibles. On cherche ça, Seigneur. On pend des Écritures pour par la suite aller dans la prière. On lit dans Matthieu 23 que Dieu est attristé quand les gens ne viennent pas à lui. On tourne dans la prière. On prie pour que des gens soient sauvés et viennent au Seigneur. Après chaque bloc de prière, après chaque lecture de la parole de Dieu, qu'on puisse prier, « Merci Seigneur pour ce que tu vois ici, tu es grand, tu es glorieux. » Ou peut-être, « Seigneur, je veux te confesser parce que je ne reflète pas l'esprit qui est dit ici. » Ou « Je veux te louer pour ce que tu es. » Ou « Je veux te demander, Seigneur, de venir changer ma vie, changer mon cœur. » Que ce qu'on lit dans la parole puisse vraiment guider nos prières. Mais vous allez peut-être me dire, pas encore rendu là. Oui, je lis la Bible. J'ai de la misère à me rester motivé à prier, à lire la Bible. On va regarder ensemble trois choses où on veut avoir une prière radicale, focussée vers les autres, ou en fait orientée vers les autres, une prière qui est intense, radicalement intense, une prière qui est remplie des Écritures, mais on dirait qu'on est sec présentement. Mais tournez avec moi dans le passage, dans Colossiens 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Première étape, c'est de se rappeler le nom qu'on porte. On est des chrétiens. On appartient au Seigneur Jésus. Juste le fait que le Seigneur est venu nous chercher, qu'on est un enfant de Dieu, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, devrait être notre source première de motivation de dire, Seigneur, je veux être digne de ton nom et être entièrement agréable. Je veux me tourner dans la prière. Je veux montrer ma dépendance envers toi, Seigneur. Mais peut-être certains vont dire, j'ai encore de la misère avec ça. Regardez avec moi le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ce que Dieu a fait pour nous en étant mort sur la croix devrait être encore une fois une source de motivation. Paul ici, sa requête baigne dans la reconnaissance pour les Colossiens du progrès qu'ils ont fait et aussi dans la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait. Puis ce qu'il prie, c'est justement que les Colossiens soient remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Puis il rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie. C'est sa motivation de la prière. Et que cette motivation soit notre inspiration pour nos prières. Vous allez me dire, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que je suis un chrétien. J'ai encore de la misère avec ça. Je passe par des moments, j'ai de la misère à être discipliné dans ma vie de prière. Bien, il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui me partageait il n'y a pas longtemps qui avait de misère par rapport à lire la parole de Dieu. Puis la personne, j'étais assez surpris, m'avait montré toute une technique qu'il utilisait pour lire la parole de Dieu, certaines façons, puis il était à l'étape de prendre des rendez-vous, etc., une certaine façon de lire. Mais c'était difficile. C'est difficile. Puis après l'avoir écouté pendant un certain temps, la seule chose que j'ai pu dire à cette personne-là, c'était de prier d'avoir ce désir-là. À quelque part, une fois qu'on a essayé toutes les techniques, toutes les choses, qu'on réalise qu'on n'est pas capable d'y arriver selon nos propres forces, Où est-ce qu'on se tourne? Vers la prière. C'est un des buts de la prière, de montrer à Dieu notre dépendance, qu'on dépend de lui, qu'on a besoin de lui. Et dans les moments où on trouve ça difficile, peut-être de prier, d'être conséquent à la prière, on cherche à avoir une prière qui est intense, prier pour les autres. Peut-être qu'on n'a même pas à cœur de prier pour les autres. Bien, de commencer à prier pour Dieu, que Dieu nous donne un désir de prier, que notre amour augmente pour les autres. Mais ça commence comme ça. Dans Philippiens 2, 13, on voit « Car c'est Dieu qui produit en vous le quoi? Le vouloir et le faire. » Si on prie Dieu d'avoir ce désir, est-ce que Dieu va nous le donner? Dieu va nous le donner. On désire, si on prie pour avoir ce désir-là, Dieu ne prend pas plaisir à cacher sa volonté. Dieu veut nous montrer sa volonté. Si on prie Dieu régulièrement que notre amour pour les autres augmente, Dieu va nous fortifier. Si vous regardez avec moi dans le verset 11, dans Colossiens 1, verset 11, « Fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse. C'est qui est-ce qui nous fortifie? C'est le Saint-Esprit qui est en nous. D'ailleurs, le mot « puissance » qui est utilisé ici, le même mot qui est utilisé, fait tout le temps référence, la majorité des temps, à Dieu. Cette puissance-là qu'on a, le Saint-Esprit, quand on va lire la parole de Dieu, qui va nous aider à mettre en pratique les Écritures, qui va nous guider à les transmettre dans notre vie pour qu'on soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, cette puissance-là, ça vient du Saint-Esprit. Et on peut, la Bible parle qu'on peut attrister l'Esprit, on peut éteindre l'Esprit, mais ce qu'on prie avant tout, c'est que l'Esprit en nous soit fort, qu'on soit fortifié par cet Esprit-là et qu'on soit persévérant et patient, même dans notre vie de prière. Qu'on soit persévérant et patient dans notre vie, qu'on attende la glorieuse espérance de la vie éternelle et qu'on prie Dieu ici-bas, qu'il nous remplisse d'un amour pour les autres. C'est ça une prière radicale, radicalement orientée vers les autres, radicalement centré sur les Écritures, radicalement intense. Et où est-ce que ça peut venir? Le Saint-Esprit nous donne cette force-là. Si on regarde l'effet que ça va avoir, eh bien, si on regarde au verset 10, « Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Quand on prie, quand on cherche à avoir une vie radicale, quand je prie radicale, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir une vie qui est radicale, centrée sur Christ, portant des fruits, grandissant dans la connaissance. Et n'est-ce pas merveilleux de voir même à l'Église, quand on se tourne vers Dieu en la prière, comment que Dieu répond? Je pensais à ça dernièrement, je pensais à la jeunesse. Jean-Philippe est parti, qu'est-ce qu'on fait? Puis, si vous êtes comme moi, on dit, bon, OK, on commence à avoir des stratégies, puis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on commençait à manquer un peu de ressources. Puis là, il y a des gens qui commencent à se manifester, des gens qui commencent à dire, puis je vais vous les nommer, des gens qui sont venus pour dire, j'ai à cœur de servir dans la jeunesse. Et c'est beau de voir ça dans la prière, que ce soit François Gravel, Dominique et Martine Collin, que ce soit Philippe et Sébastien Leduc, Pamela Bascounian, Mary Robert, Oscar Hernandez, Jean-Philippe Baudry, les Leduc, les Bertrand, des gens qui ont à cœur dans l'Église ici de servir. Réponse à la prière. On regarde dans les petits groupes, on se dit, comment est-ce qu'on fait pour trouver d'autres leaders? Ils sont où les leaders de petits groupes? Juste cette année, il y a plusieurs groupes qui se sont formés. Guillaume avec Normand, il y a Fernand Gagnard, il y a Salomon, et il y en a d'autres qu'on va vous annoncer aussi dans les prochaines semaines. Dieu répond à la prière. Et d'ailleurs, quand on regarde à travers le monde des belles choses qui se passent dans les églises, souvent, en arrière, puis je me rappelle même une histoire que j'avais lue quelque part, quand quelque part, il y a des gens qui sont dans la prière et qui cherchent la face de Dieu. Il y a une puissance dans la prière. Quand on cherche à être rempli de la connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu, cherche à penser comme Dieu aurait pensé, ça modifie notre attitude, ça modifie notre cœur, ça nous pousse à passer à l'action. Finalement, cette semaine, je vais vous lancer un défi. Si vous voulez avoir une vie radicale, il faut commencer avec une prière qui est radicale. Pour avoir une prière radicale, on veut se lancer le défi de nous étirer dans notre liste de prières. Commencer avec un calepin. Commencer par penser à des gens qui ne sont pas au Seigneur, des gens autour de vous. Commencer à leur demander aux gens autour de vous leur requête. Commencer à prier pour des gens même qui vont bien. Deuxième point, chercher une vie de prière radicalement intense. Cherchez Dieu tout au courant de votre journée et priez pour ça. Si vous n'avez pas ce désir-là, priez pour ça. Donnez-vous des rendez-vous avec Dieu que vous allez pouvoir peut-être respecter pendant la journée. Lever le midi, le soir, pendant la journée au travail, peut-être dans l'auto. Des moments que vous allez prier le Seigneur. Et finalement, cherchez à lier votre lecture des Écritures à votre vie de prière. Inspirez-vous des Écritures. Je peux dire que les meilleures prières dans ma vie que j'ai faites, ce n'était pas des prières que j'essaie d'inventer tout seul. C'était des prières qu'en lisant la parole de Dieu, qui m'ont inspiré par la suite de me tourner vers Dieu, de donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, de l'adorer, de confesser mes péchés, lui partager mes requêtes. Donc, que ce soit notre défi cette semaine ensemble, qu'on ait une vie qui soit radicale. Prions ensemble. Oui, Seigneur, notre prière ce matin, c'est de tout simplement résumer le passage, de relire le passage qu'on vient de voir ensemble, Seigneur. Que chaque personne ici, à l'Église de l'Espoir, soit remplie de ta connaissance, de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher d'une manière digne de toi, Seigneur, et être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance, fortifié à tout égard, par ta puissance glorieuse, en sorte qu'on soit toujours et avec joie persévérant et patient. On te rend grâce, Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de ton Fils, de ton amour. Amen.